Vous écoutez, on lit pour vous.
10 conseils pour négocier efficacement avec Donald Trump. Un texte de l'agence France-Presse paru le 31 janvier 2025 dans Le Devoir. Psychanalyste émérite et ancien professeur de psychiatrie au George Washington University Medical Center, Justin A. Frank, signait en 2018 « Trump on the Couch » Inside the Mind of the President, un livre où il décortiquait le profil psychologique du président américain. Il a donné en entrevue au Devoir quelques clés pour tenter de comprendre les pensées du populiste. Notons toutefois que M. Frank n'établit ici aucun diagnostic et que les conseils qu'il livre relèvent de son opinion personnelle, tout informée soit-elle. Conseil numéro 1. S'attendre à se faire intimider. Ce que Trump a fait toute sa vie, c'est semer le chaos. Il a toujours été un destructeur, avance d'entrée de jeu Justin A. Frank. Et avec son retour au pouvoir, il ne se contentera pas de ça, prévient-il. Il va cibler des gens et les menacer directement. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, en a déjà fait les frais. Il estime que Donald Trump continuera d'utiliser ses vieilles techniques qui consistent à effrayer ses interlocuteurs avant de tenter d'améliorer les choses. Quand il était plus jeune et que ses enfants avaient 3 ou 4 ans, il leur faisait peur au moment du coucher, alors ces derniers faisaient des cauchemars. Puis, il entrait dans leur chambre, allumait et arrangeait les choses. C'est son modus operandi. Conseil numéro 2. S'aligner sur son narcissisme. Je ne fais pas de politique, mais sur le plan clinique, en revanche, je pense que la seule façon de conclure un accord avec lui est de s'aligner sur son narcissisme, explique le psychanalyste émérite. En d'autres termes, il faut trouver un moyen d'être perçu par lui comme quelqu'un qui va dans le sens de sa grandiosité. Conseil numéro 3. Toujours commencer par le flatter. L'une des seules façons efficaces d'aborder le président américain serait donc de commencer par le flatter, affirme Justin A. Frank. Bref, il faudrait lui parler de ce dont il est fier, de ce qu'il aime chez lui-même. Ainsi, comme Donald Trump aime le pouvoir et sa capacité auto-attribuée à toujours sortir vainqueur, l'ancien professeur de psychiatrie suggère de commencer la négociation de la sorte. « Vous avez été écarté de la présidence en 2020 et maintenant, vous êtes de retour. Vous êtes incroyable. Comment faites-vous? C'est tout simplement fantastique. » Il est très sensible à ce genre de choses, affirme M. Frank. Selon lui, une telle entame permettrait de mettre le président américain à l'aise et de parler petit à petit des choses dont on veut vraiment lui parler. Conseil numéro 4. S'asseoir à ses côtés. L'étape d'après, ce serait de venir s'asseoir à ses côtés, au sens propre comme au figuré. Comme lors d'une psychanalyse, il est important de venir s'asseoir près de son interlocuteur et de regarder avec lui dans la même direction, avancent Justin et Frank. Dans un tel cas, nous nous parlons, mais pas comme des adversaires. Si je suis assis en face de lui, en revanche, ça ne peut pas fonctionner. Car le président Trump est constamment sur la défensive, explique-t-il. En face à face, il se bloque contre tout ce que je pourrais dire, parce qu'il s'agit pour lui d'une attaque potentielle. Conseil numéro 5. Savoir se montrer ferme. Pour négocier avec Trump, il serait important d'adopter un langage très direct et de se montrer ferme face à lui, dit le psychanalyste émérite. Dans le cas des négociations sur les tarifs commerciaux qu'il veut imposer au Canada, par exemple, M. Frank suggère d'adopter ce genre d'attitude. « Parlez-moi davantage des tarifs douaniers que vous voulez nous imposer, M. Trump. Qu'est-ce qu'ils vont vous apporter? Comment vont-ils vous aider? Puis, ensuite, je veux en parler sérieusement sans me contenter de menaces. Je veux vous parler de la manière dont nous pourrions travailler ensemble, mais je ne suis pas prêt à faire tout ce que vous dites. » Conseil numéro 6. l'affronter à petite dose. Quand on négocie avec Donald Trump, on marche constamment sur un fil. La seule façon de faire face à lui serait donc d'être sûr de sa force et de ne jamais reculer, affirment Justin et Frank. Il faut aussi être vraiment réceptif à ce qu'il dit. Ainsi, lorsque Donald Trump dit « Ils sont là pour m'avoir », eh bien, on pourrait alors répondre « Dites-moi plus, qui veut votre peau? Pourquoi ?» Il suggère aussi d'être très clair dans ses intentions sans toutefois se lancer dans des discussions acharnées. Donald Trump me rappelle un patient qui avait l'habitude de se promener dans les couloirs de l'hôpital et de dire « Je suis mort, je suis mort ». Un jour, je lui ai demandé si les morts saignaient. Il m'a répondu que non. Alors, je lui ai proposé de prendre nos doigts et de les piquer avec une aiguille. Nous l'avons fait tous les deux et avons tous les deux saigné. Il m'a regardé et m'a dit « J'ai tort, les morts saignent ». Trump est comme ce patient-là, affirme M. Frank. Il est impossible de le contredire. Conseil numéro 7, s'inspirer d'Emmanuel Macron. Le président français Emmanuel Macron serait l'exemple à suivre pour qui veut négocier avec Donald Trump, croient Justin et Frank. Il est capable d'être le gars aimable, positif, tout en conservant sa force et son allant. Trump est une personne qui envie les gens bien et il s'attaque à la bonté chaque fois qu'il le peut. Il faut donc être le type de personne qui est solide à l'intérieur, qui peut s'aligner sur le narcissisme de Trump sans renoncer à ses propres croyances fondamentales. Conseil numéro 8, prévoir ses changements d'humeur. Le problème, c'est que Donald Trump peut se transformer en un clin d'œil. Vous pouvez être le très bon ami et, soudain, l'ennemi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un moyen de contrer ça, avance le psychanalyste émérite. Son père a bien essayé de le faire dans son enfance, affirme-t-il. Lorsqu'il l'a envoyé à l'école militaire, c'était pour lui fixer des limites. Il pensait que cela mettrait fin à ce genre de comportement. Mais ça n'a pas marché. Conseil numéro 9, ne pas hésiter à faire une pause. Selon Justin et Frank, lorsque Trump commence à se montrer menaçant, il faut lui dire « Pourquoi ne pas arrêter maintenant et nous reparler lorsque vous vous serez calmé? » Il y a des risques que ça le mette un peu en colère, mais il faut savoir mettre un terme à la discussion, affirme-t-il. Conseil numéro 10, garder en tête qu'il est impossible de conclure un accord avec Trump. Il faut se rendre à l'évidence qu'il est impossible de conclure un deal avec Donald Trump, affirme M. Frank. En 1987, dans son livre « The Art of the Deal », Trump expliquait déjà sa façon de berner son monde. C'est un livre sur la manière de blesser les autres. Pour l'ancien professeur de psychiatrie, négocier à la Trump signifie que l'une des deux parties abandonne, car dans la conception du monde du président américain, il n'y a que des gagnants et des perdants. Une poignée de main signifie pour lui que vous avez perdu. Il faut aussi garder en tête qu'il ne respectera sûrement pas l'accord signé, qu'il ne tiendra pas ses promesses, résument Justin et Frank. Bonus, ne pas hésiter à en rire. Pour finir, Justin et Frank conseillent de prendre un peu de recul et de rigoler un bon coup. Il est important de rire parce que cela vous aide à gérer votre propre peur et à vous sentir un peu plus en sécurité. Lorsque vous commencez à le prendre au sérieux, ça devient très effrayant, parce que ce qu'il peut faire est très effrayant. C'était 10 conseils pour négocier efficacement avec Donald Trump, un texte de l'agence France Presse paru le 31 janvier 2025 dans Le Devoir.
La parole. Une parenthèse quotidienne au profit de l'individu dans « Cher connard » de Virginie Despentes. Un texte de Marie-Lise Auvray, paru le 24 mai 2024 dans « Voix plurielle ». Virginie Despentes écrivaine de renom issue de la culture post-punk underground, a écrit quelques œuvres de la littérature française contemporaine les plus avant-gardistes du féminisme, comme King Kong Theory, 2006. Récipiendaire de nombreux prix, dont le prix Renaudot, pour les romans Les Jolies Choses, 1998, Apocalypse Bébé, 2010, et la trilogie Vernon Subutex, 2015-2017, son dernier ouvrage intitulé Cher Connard, 2022, est resté en tête des ventes pendant plusieurs semaines et a été encensé par la critique littéraire. Comme c'est une œuvre qui déstabilise et déconstruit le patriarcat et la condition de la femme en France, ce roman épistolaire aide à mieux comprendre les abus de pouvoir. Ancré dans son époque, Cher Connard interroge le rapport au quotidien de deux artistes en déclin qui négocient le virage de la cinquantaine en renonçant à leurs vieux démons, mais aussi et surtout en découvrant les bienfaits du dialogue. À cette étape charnière de leur existence, Rebecca Latté, actrice culte des années 1980, qui, depuis qu'elle a 50 ans, est en crise avec le cinéma, qui ne lui propose plus que des rôles de femme au foyer, à condition qu'elle maigrisse, et Oscar Jaillac, écrivain à succès, accusé d'avoir harcelé sexuellement son ancienne attachée de presse, aujourd'hui blogueuse féministe très suivie, Zoé Catana, renoncent tous deux à la drogue qui leur a permis, tous les jours et pendant des années, d'échapper à une réalité douloureuse afin de trouver dorénavant refuge dans l'échange, parenthèse journalière double, à savoir la correspondance épistolaire et les réunions narcotiques anonymes. Les échanges entre Rebecca et Oscar sont entrecoupés par les billets du blog féministe influent et radical tenu par l'activiste Zoé Catana. En y abordant, par l'entremise de ses propres expériences, des problématiques manifestes de notre époque, MeToo, féminisme de combat et redéfinition de la masculinité, violence en meute sur les réseaux sociaux et libéralisme, la jeune femme montre sa volonté de participer à la définition d'un espace-refuge pour des femmes qui, comme elle, cherchent à se protéger du masculinisme et du féminisme libéral. Un espace modeste et bienveillant, un coin dans la maison du féminisme dans lequel on peut écouter, soigner et aimer. Ainsi, ces parenthèses, la correspondance épistolaire, les réunions narcotiques anonymes et le coin dans la maison du féminisme peuvent-elles être envisagées telles des contre-espaces, au sens où l'entend Michel Foucault, des lieux qui s'opposent à tous les autres, qui sont destinés en quelque sorte à les effacer, à les neutraliser ou les purifier. Ces espaces différents, qu'ils soient utopiques, des pays sans lieu et des histoires sans chronologie, dont il serait bien impossible de relever la trace sur aucune carte ni dans aucun ciel, tout simplement parce qu'ils n'appartiennent à aucun espace, ou hétérotypiques, des utopies qui ont un lieu précis et réel, un lieu qu'on peut situer sur une carte. Des utopies qui ont un temps déterminé, un temps qu'on peut fixer et mesurer selon le calendrier de tous les jours. Autrement dit, irréel ou réel, offre aux trois personnages des refuges au service d'un bien-être indispensable à leur équilibre et à un meilleur rapport à l'autre, aux autres et au monde. La drogue, une échappatoire toxique. Cher connard, j'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un pigeon qui m'aurait chié sur l'épaule en passant. C'est salissant et c'est très désagréable. Ouin. Je suis une petite baltringue qui n'intéresse personne et je couine comme un chihuahua parce que je rêve qu'on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux. Tu l'as eu ton quart d'heure de gloire. La preuve? Je t'écris, bouffon. Ainsi commence la correspondance entre les deux protagonistes. Rebecca répond à une publication d'Oscar sur les réseaux sociaux, commentant son âge et son physique de manière abjecte de la propre confession de ce dernier. Quelques lettres plus tard, Rebecca se venge. Les écrivains, vous êtes connus pour être précoces quand il s'agit de faire les vieux. La littérature, je ne sais pas ce qu'il se passe chez vous, vous êtes tous imbaisables. Les mecs perdent leurs cheveux avant 30 ans, vous avez des poils sur les doigts, vous vous habillez volontairement mal à croire que vous avez déclaré la guerre à toute libido féminine. La situation maintenant rééquilibrée, une nouvelle relation peut débuter. Il ne s'agit effectivement pas d'une première rencontre. Rebecca et Oscar se sont régulièrement côtoyés durant leur jeunesse, puisqu'ils viennent des mêmes quartiers prioritaires de la ville de Nancy. Dans les années 1980, Rebecca était aussi la meilleure amie de Corinne, la sœur aînée d'Oscar. C'est d'ailleurs le rappel des souvenirs, dans les premières lettres, qui va cimenter les débuts très fragiles de cette amitié en devenir. « Je, Oscar, t'écris parce que parler du passé m'est plus agréable que de me coltiner la merde quotidienne. » Ou encore, « C'est drôle, depuis qu'on s'écrit. Je, Rebecca, réalise que je n'ai pas que des mauvais souvenirs de là-bas. Je n'ai pas souvent eu le temps de me pencher sur le passé. » Cependant, comme le suggère indirectement la précision « pas que des mauvais souvenirs », le passé est aussi et surtout synonyme de souffrance. Effectivement, Rebecca et Oscar ont tous deux été victimes de rejet parental. L'actrice se souvient avoir été un problème ou encore un fardeau pour sa mère, dont les deux fils étaient plus importants. L'écrivain, malgré tous ses efforts, n'a également jamais réussi à obtenir l'affection de ses parents. Sa sœur lui avoue d'ailleurs qu'elle n'a pas une image de lui dans les bras d'un adulte, qui lui dise « Sèche tes larmes, je suis là ». Ensemble, les deux protagonistes comprennent que leur dépendance commune aux drogues trouve en partie ses origines dans ce manque d'amour parental. Rebecca. Quand je me défonce, il est possible que je réalise le souhait parental. Je ne fais pas de bruit, je m'éteins, je fais comme si je n'étais pas là. Je sais que tu comprendras. Tu m'as raconté ta vie. Depuis l'âge de 13 ans, Rebecca consomme donc une multitude de drogues. De l'alcool, de l'héroïne, des amphétamines, de l'eau écarlate, des acides et du shit pour conjurer cette enfance humiliante en, dit-elle, disjonctant sa connaissance, en s'absentant de cette situation, en s'en extrayant. Autrement dit, en prenant n'importe quel produit lui permettant de foutre le camp. Oscar se réfugie lui aussi, dès l'adolescence, dans diverses drogues. Celles-ci deviennent, pour ce jeune homme mal-aimé, malheureux, le tabasco du quotidien, le truc qui donne du goût au fade. Encore une fois, ce n'est pas le type de produit qui importe. Oscar dit d'ailleurs, « Quand une défonce devient problématique, je la remplace par une autre. » Mais plutôt sa capacité à permettre de fuir la réalité, de foutre le camp, pour reprendre les termes de Rebecca. Pendant plus de 30 ans, la drogue va être, pour les deux personnages, la réponse à tout. un remède quotidien à une histoire personnelle douloureuse et à un contexte sociétal désillusionnant. Comme elle permet de shifter, autrement dit de résister à une société dont la pente glissante mène à une dictature, de résister à une époque où l'individualisme est mis à mal, en se déplaçant dans un espace rassurant, la drogue peut être entendue ici tel un contre-espace au sens où l'entend Foucault. Une illusion qui dénonce tout le reste de la réalité comme illusion. Si la drogue semble projetée dans un espace utopique, au sens où l'entend Foucault, cela ne peut se réaliser qu'à partir d'un lieu sensible, ancré dans la réalité. Lorsque celui-ci est également réconfortant, Oscar dit par exemple que, dans les bars, il se sent chez lui, et que chaque comptoir a le potentiel d'un havre d'accueil. Foucault parle, dans un tel cas, d'espace hétérotopique. Comme ces espaces quotidiens privilégiés rejoignent la théorie de Foucault, selon laquelle il peut exister, au sein même d'un contre-espace, d'autres contre-espaces utopiques ou hétérotopiques, autrement dit irréels ou réels, on peut parler d'une mise en abîme des contre-espaces, utopie de l'alcool au sein même de l'hétérotopie du bar, pour reprendre l'exemple précédent. Cette mise en abîme offre un double réconfort à Rebecca et Oscar lorsqu'ils sont sous l'emprise de la drogue, mais se transforme en handicap dès le début du processus de désaccoutumance. Oscar, c'est surtout les bars que je regrette. Avoir le sien, le réconfort d'un chez-soi qui n'est pas domestique. Vous écoutez? La parole, une parenthèse quotidienne au profit de l'individu dans « Cher connard » de Virginie Despentes. Un texte de Marie-Lise Auvray, paru le 24 mai 2024 dans Voix plurielle. L'échange au service de la rémission, le processus de désintoxication, cette guerre pour Oscar, ce voyage au bout du jour pour Rebecca, va être entrepris par les deux artistes pour qui, à la cinquantaine cabossée, la drogue ne jette plus aucun filtre sur leurs idéaux qui s'effondrent et leur solitude au sein d'un monde qui perd son sang-froid. Ils avouent communément « La fête est finie. » C'est néanmoins Oscar qui ouvre le bal. « Je t'écris parce que je me sens seul à crever et que j'ai tout perdu et que je ne sais pas à quoi me raccrocher. Je t'écris parce que je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool et n'ai pas fait un trait de coke, ni gobé d'exta, ni tiré sur un pétard, ni avalé une pilule pour dormir depuis 15 jours et que je me sens fragile comme un gosse. D'instinct, je sais que je dois tenir. Moi-même, je ne me l'explique pas. Quand je redéroule ce qui s'est passé, et je le fais en boucle, j'arrive toujours à cette même scène finale, le moment où je rentre chez moi et je sais que ma seule chance de m'en sortir, c'est d'arrêter de me défoncer. L'anaphore « Je t'écris parce que » témoigne de l'urgence de la situation et du besoin irrépressible de soutien, et les énumérations qui lui sont annexées du tourment d'Oscar. Comme son quotidien n'est plus rythmé par des rituels, pas bu, pas fait, ni tiré, ni avalé, il a la sensation de ne plus maîtriser sa vie, ce qui l'étourdit et l'inquiète. Il se dit perdu et fragile. La comparaison, comme un gosse, appuie cette impression de vulnérabilité. Enfin, la litote de m'en sortir appuyé par la théâtralité du discours, scène finale, termine de figurer la peur d'Oscar d'un destin funeste. Alors que, dans ses premières lettres, Rebecca revendique être une professionnelle de la drogue, elle va, sous prétexte d'être compétitive, relever le défi du cirque de « Je suis clean » d'Oscar. Mais ce sont en réalité d'autres raisons, plus difficilement avouables. Elle menace d'ailleurs Oscar de mort s'il ose répéter ses confidences, qui vont pousser l'actrice à se désintoxiquer, comme la dégradation physique qui, elle le sait, ne peut pas uniquement être imputable à l'avancée dans l'âge. Elle admet d'ailleurs que, mis à part Keith Richards, elle ne connaît pas de vieux toxicos élégants. Mais surtout, comme Oscar, elle reconnaît qu'elle a envie de survivre. Là encore, la litote traduit indirectement l'angoisse de la mort, une manière douce de décrire une terrible réalité. Le partage d'une expérience de vie commune avec une sincérité sans faille, Rebecca précise dans une des lettres à Oscar, « faut pas se mentir », permet le dialogue entre ces deux personnages que tout oppose en apparence. Une victime, Rebecca a en effet été violée à 17 ans, et un bourreau. Néanmoins, Rebecca refuse toute victimisation et la condescendance pernicieuse qui va avec. Et Oscar, vulnérable, fragile, malmené, n'est pas si bourreau, ainsi que l'écrit Rebecca. Sans être partisane du tiède, la modération a parfois du bon. Il existe une ligne médiane entre « je suis le plus innocent des hommes » et « un martyr du féminisme » et « je me sens comme un violeur ». Plus qu'un simple dialogue, les kilomètres de lettres quotidiennes échangées aboutissent à une véritable amitié. L'évolution des vocables employés par Rebecca pour désigner Oscar en témoigne. On passe en effet de « cher connard » à « minou »,« copain » ou encore « poussin ». Et Rebecca devient un socle pour Oscar. Dans un des morceaux d'anthologie d'un texte qui en compte de très nombreux, écrit pour faire suite à une lettre d'Oscar, dans laquelle il avoue craindre une rechute à, dit-il, la personne la plus proche de lui, Rebecca lui déclare son amitié et son soutien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'ami qui va bien et qu'on voit construire sa débâcle? Les gens se foutent en l'air. On ne peut être que d'accord avec ça ou éviter de choisir ses amis parmi les perturbés. Ce ne sont pas les gens seuls dont personne ne se préoccupe, qui se foutent en l'air autour de moi. Au contraire, ce sont les gens qui sont aimés. C'est une façon de dire à ceux qui les entourent, « Vous ne servez à rien. Regardez, vous ne pouvez me faire aucun bien. Je me solidarise toujours avec les non-alignés. » Qu'est-ce qu'on peut faire pour les amis pour lesquels on craint le pire? Rien. On ne peut qu'envoyer des messages pour dire « on va faire un ping-pong, on se retrouve en terrasse ». On ne peut que se dire « pourvu que ça passe » et être là, après, en priant pour qu'il reste quelque chose de l'ami qu'on avait. Et puis, laisse épicer. Je t'embrasse. La répétition qui structure et rythme ici l'extrait, qu'est-ce qu'on peut faire? Se foutre en l'air? On ne peut que rien, appuie le désarroi de Rebecca face à son impuissance. Le vocable « rien », plus précisément, parce qu'il est accentué par le syntagme hyperbolique « aucun bien » et parce qu'il a un caractère synthétique et une position symbolique, en fin de phrase ou en termes uniques d'une phrase, appuie le caractère amer et désabusé de ce constat. Mais la puissance quotidienne des mots, de l'échange, de l'amitié, celle-là même qui sauve et qui rend meilleur, annihile la cruelle réalité. « Ami, ta lettre m'a touché. Je ne rechuterai pas », répond immédiatement Oscar. Même si les premiers écrits ne le laissaient pas présager, ensemble, ils déposent les armes, tombent leurs masques et vainquent leur dépendance. On a vécu ça ensemble, toi et moi. La vie a le sens de l'humour. Ensemble, ils retrouvent un bien-être indispensable à leur équilibre et à un meilleur rapport à l'autre et au monde. Oscar. Je suis bien. Ça va. Ni de l'euphorie, ni du déni. Mais cette fois, je sais que ça va passer. L'important, c'est que je reste clean. Que tu ailles bien.
Rebecca.
Je sais qui je suis. Je suis clean. Tu peux m'appeler. Tu peux compter sur moi. Si la transformation de Rebecca et d'Oscar repose en grande partie sur leurs échanges quotidiens, elle est aussi la conséquence de leur participation aux Narcotiques Anonymes, expérience commune qu'ils partagent d'ailleurs régulièrement dans leurs lettres, contribuant ainsi à la cimentation de leur amitié. Dans leur correspondance, Narcotiques Anonymes est un espace où, sans craindre la honte et le jugement, ils peuvent parler de leurs faiblesses, de leurs impuissances, de leurs chagrins. Cet endroit où ils peuvent se montrer, dans ce qu'ils ont de plus déglingué, cet intervalle, ce contre-espace, leur est précieux. Encore une fois, comme pour leurs échanges épistolaires, les débuts sont hésitants, mais deviennent rapidement indispensables. Oscar. Les anciens m'ont dit qu'il fallait faire une réunion par jour, les trois premiers mois. Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé « jamais de la vie ». C'est un programme conçu pour des gens qui pensent « jamais de la vie » à chaque fois qu'on leur donne un conseil. Conclusion, je fais une réunion par jour.
Rebecca.
Au début, quand ils m'ont dit qu'il fallait venir presque tous les jours, j'ai pensé que c'était hors de question. Je n'avais pas besoin d'écouter quotidiennement du blabla bien-pensant. Mais si je ne vais pas en réunion, je doute. Alors j'y vais. À l'ère du règne des réseaux sociaux et de la haine qu'ils véhiculent, cette toile humaine bienveillante s'impose comme un refuge indispensable à leur bien-être. Si leur correspondance leur permet un équilibre au profit d'un meilleur rapport à l'autre et au monde, les réunions Narcotiques Anonymes leur offrent un meilleur rapport aux autres. Rebecca dit d'ailleurs des adeptes de ces réunions qu'ils sont ses copains et Oscar affirme se sentir comme l'un des leurs. Si ces réunions sont un refuge temporaire, une béquille sur laquelle on peut s'appuyer un temps pour se remettre d'une blessure, leur amitié est promise à un tout autre avenir. En effet, ils reconnaissent communément être à l'étroit dans leurs lettres et s'accordent pour offrir à leur relation refuge un autre lieu, plus ancré dans la réalité, autrement dit, plus pérenne. Cher Connor se termine effectivement avec ces mots de Rebecca. Oui, on pourrait se voir un jour. Vous écoutez? La parole, une parenthèse quotidienne au profit de l'individu dans « Cher Connor » de Virginie Despentes. Un texte de Marie-Lise Auvray, paru le 24 mai 2024 dans « Voix plurielle ». Un coin pour une parole féminine. Féministe radicale? Moi, je suis féministe avec Valérie Solanas et engagée au quotidien et depuis des années sur le web, Zoé est une habituée de la rage des masculinistes qui se caractérise par des critiques haineuses ainsi que des menaces de mort et de viol. Mais depuis qu'elle a osé raconter son histoire avec le célèbre Oscar Jaillac et ainsi rejoint les rangs de l'armée des filles maltraitées, qui sortent du silence pour parler le langage des filles en colère, la fureur à son égard s'est décuplée. Face à ce déchaînement de haine caractéristique du « backlash », contre-coup, concept théorisé en 1991 par la journaliste et essayiste américaine Susan Faludi, Zoé dénonce le pouvoir dévastateur des hommes et donc, inclusivement des masculinistes, en définissant l'espace dominant qui leur est accordé au sein de notre société contemporaine. La jeune femme en est convaincue. La honte doit changer de côté. Adepte des procédés rhétoriques, comme ceux d'insistance, Zoé use d'un raisonnement par ellipse pour caractériser cet espace dominant et de la domination. C'est en effet en dénonçant le peu d'espace, voire le non-espace accordé aux femmes, elles restent bloquées à l'entrée de l'humanité, que la blogueuse met l'accent sur ce qui n'est pas dit, mais suggéré. Les masculinistes occupent l'espace public. Dans son essai « Calmez-vous, madame, ça va bien se passer », Marie-Cécile Navès, directrice de l'Observatoire Genre et Géopolitique à l'IRIS, de manière plus nuancée puisqu'elle ne dit pas des hommes qu'ils sont tous des masculinistes, la rejoint. Il reste impensable pour nombre d'hommes de partager l'espace public. Si, à son tour, Zoé mesure ses propos lorsqu'elle caractérise cet espace de lieu de chasse, tous ne chassent pas. Mais tous laissent passer le chasseur. Elle est catégorique quant au statut qui est réservé aux femmes. Des proies, des vulgaires parasites, de simples compléments d'objets ou à peine. Car aux objets, on ne reproche pas l'usage qu'on en fait. Déshumanisées, non représentées, les femmes doivent se contenter du hors-champ. C'est ailleurs, en quelque sorte nulle part, s'apparente à ce que Foucault théorise sous le nom d'hétérotopie de la déviation. Des lieux que la société ménage dans ses marges, dans les plages vides qui l'entourent, réservés aux individus dont le comportement est déviant par rapport à la moyenne ou à la norme exigée. Zoé use de nouveau d'une rhétorique de la suggestion lorsque, pour dénoncer les multiples violences faites aux femmes, elle énumère celles dont les hommes ne sont pas et ne seront jamais les victimes. Les hommes, nous ne les avorterons pas. Nous ne les priverons pas d'éducation. Nous ne les brûlerons pas sur un bûcher. Nous ne les tuerons pas dans les rues. Nous ne les tuerons pas lorsqu'ils font leur jogging. Nous ne les tuerons pas dans les bois. Nous ne les tuerons pas dans nos maisons. Nous ne leur ferons pas honte d'être nés de leur sexe. Nous ne les affamerons pas. Nous ne les violerons pas. Nous ne les toucherons pas sous les tables. Nous ne les dénigrerons pas parce qu'ils désirent du sexe. Nous ne leur interdirons pas l'espace public. Nous ne les exclurons pas des cercles de pouvoir. Nous ne les mutilerons pas. Nous ne leur interdirons pas de s'habiller comme ils l'entendent. Nous ne les forcerons pas à enfanter. Nous ne les culpabiliserons pas quand ils ont une passion qui les éloigne du foyer. Nous ne les déclarerons pas fous lorsqu'ils ne sont pas de bons époux. Nous ne confisquerons pas leur sexualité. Nous ne surveillerons pas leurs faits et gestes et leurs déclarations comme s'ils nous appartenaient. Nous ne réclamerons pas de voir leurs cheveux. Nous ne frapperons pas d'ignominie ceux qui désobéissent. En omettant de juxtaposer, dans une forme affirmative, bien sûr, le mot « femme » à la liste de leurs potentielles agressions, Zoé rompt subitement avec l'omerta selon laquelle les obstructions aux droits et aux plaisirs des femmes doivent être tues, et incite le lecteur à penser en dessous pour la rejoindre. Joël de Sermet explique effectivement que la suggestion, parce qu'elle appelle un surcroît d'activité interprétative, produit un bénéfice sémiotique comparable à un conditionnement conduisant à la formation active d'un assentiment. Lorsque Zoé reprend l'expression « continent noir » développée par Sigmund Freud en 1925, qu'il avait lui-même emprunté à l'explorateur britannique Henry Morton Stanley, 1878, ce n'est pas pour souligner la méconnaissance de la sexualité féminine, mais pour briser la loi du silence autour des pratiques obscures, inceste, viol, contrainte, harcèlement, sur lesquelles elle se construit. Comme elle ne se sent pas du tout une citoyenne de seconde zone et qu'elle ne transige pas sur la légitimité de son désir, Zoé s'indigne que le corps des femmes doivent entrer de force dans l'équation du désir. Qu'on danse sur lui, pas avec lui. Elle est rejointe par Amandine Claveau, directrice des études et de l'Observatoire Égalité hommes-femmes, lorsqu'elle déplore, dans le rapport de la Fondation Jean Jaurès, une volonté masculiniste de plus en plus importante, d'une société hétéronormée et sexiste, qui vise à contrôler le corps des femmes et leur sexualité. Le non-espace physique des femmes s'accompagne d'un non-espace de leurs paroles. Taisez-vous pour toujours, cédez, disparaissez, cessez de publier. Écoutez ce qu'on vous dit. Arrêtez de prendre de la place dans l'espace social, ou tout du moins de son écoute. Nous sommes dans le monde des centaines de milliers à dire la même chose. Et ils sont des centaines de milliers à nous dire « on n'entend rien ». Et si, dans le sillage encore brûlant de la bataille MeToo, menée depuis 2017, des femmes engagées et courageuses comme Zoé soulèvent la chape de plomb, astreignent à l'écoute parce que les choses n'évoluent pas si tu ne les obliges pas à le faire, ainsi que le déplore Rebecca, les masculinistes continuent de juger. Zoé, mon point de vue est un terrorisme. Je me trompe sur mes sentiments. Et où de donner des leçons, puisque même le féminisme leur appartient. Il convoque des féministes mortes et enterrées pour dire qu'avant c'était mieux. Ce n'est pas la bonne Simone qui se serait plainte d'une main au cul. Non, Simone, c'était la belle époque. C'était les violées qui se taisent, les moches qui rasent les murs, les lesbiennes qui se cachent et le petit personnel engrossé à la va-vite et qu'on envoie crever ailleurs. Le bon vieux temps de la domination bien comprise par les dominés. En manipulant l'histoire du féminisme pour l'ancrer définitivement dans le temps, les masculinistes, tels que dépeints par Zoé, continuent d'imposer leur pouvoir sur les femmes et de freiner leur émancipation. Ainsi, l'hétérotopie de la déviation réservée aux femmes s'accompagne-t-elle de ce que Foucault appelle l'hétérochronie, soit le lieu d'un temps qui ne s'écoule plus, qui s'accumule à l'infini, une sorte de rupture absolue avec le temps traditionnel. Si ce découpage singulier du temps peut découler d'une démarche constructive, on pense aux musées et aux bibliothèques, il induit ici la cristallisation d'une époque au cours de laquelle les hommes ordonnaient « pas de féminisme, ça fait débander », Ce à quoi les femmes répondaient « Pas de problème, papa, je n'emmerderai personne avec mes petites affaires. » Une époque au cours de laquelle, Rebecca en témoigne, les femmes se brisaient une à une. Si Zoé pensait que le mouvement MeToo, parce qu'il a induit une libération massive de la parole, avait permis une évolution de la condition féminine, elle comprend rapidement, après sa publication au sujet d'Oscar, que c'est le contraire qui semble se produire. À la vengeance des pétasses, le patriarcat contre-attaque. Les masculinistes ont déclaré la guerre aux féministes sur les réseaux. Ils savent que leur stratégie fonctionne et qu'ils peuvent compter sur la complicité des réseaux, détenus par des masculinistes. Zoé est victime, comme tant d'autres, du backlash dont les réseaux sociaux accentuent les aspects les plus vicieux, jusqu'à en faire des armes. Les femmes qui s'expriment sur ces supports publics sont massivement prises pour cible, particulièrement lorsqu'elles sont connues. Le cas Amber Heard en est un exemple saisissant. Ce harcèlement induit la peur et donc le mutisme. Ce qui est désiré, c'est que tu te taises à tout jamais. Instinctivement, tu le sais. Tu te tais. Dans un entretien pour le magazine culturel français Télérama, Falloudi souligne, avec regret, l'ironie de la situation. L'un des premiers combats féministes avait consisté à défendre le droit des femmes à la prise de parole publique. Nous devons à nouveau mener la bataille aujourd'hui. Plus que le harcèlement dont elle est victime, c'est cette régression qui atteint Zoé. Nous sommes sortis d'une situation d'impossibilité de parler et de dire pour entrer dans une autre situation d'impossibilité de parler et de dire. Résultat, c'est toujours de la même asphyxie qu'on crève. Les parois ont changé de nature, mais l'espace est toujours aussi restreint. Vous écoutez La parole, une parenthèse quotidienne au profit de l'individu dans Cher connard de Virginie Despentes. Un texte de Marie-Lise Auvray, paru le 24 mai 2024 dans Voix plurielle. L'histoire ne cesse de nous le prouver, et Simone de Beauvoir était justement prévoyante. Votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. Si, dans un premier temps, aveuglée par ses ambitions, je suis activiste sur le web. C'est dangereux. Je m'en fous. C'est ici que je contamine, que je réponds, que je représente, que je rencontre. Bien que mise en garde par une amie féministe, possiblement Corinne, la sœur d'Oscar, « Protège-toi !» Zoé persiste périodiquement à dénoncer la société patriarcale et à défendre les droits des femmes sur son blog. Elle perd finalement pied. « J'ai pété un câble et ma raison vacille. » Paranoïaque, hallucinée, étouffée, scarifiée, elle demande son internement. De retour de l'hôpital, non pas parce qu'elle y a trouvé une oreille attentive, mais parce qu'elle est sous traitement, la jeune femme reprend sa vie quotidienne. Néanmoins, rapidement rattrapée par une nouvelle diatribe à son égard, accompagnée de photos d'elle et d'Oscar, réunis par accident, Zoé est victime d'une deuxième vague de haine particulièrement virulente sur les réseaux sociaux, puisqu'à celle des masculinistes s'adjoint celle, tout aussi arbitraire et véhémente, la même merde, des féministes libérales. Comme des mecs. Vous n'avez pas critiqué, vous n'avez pas engagé le débat, vous n'êtes pas venu vous adresser à moi sur le plan des idées. Vous avez attaqué. Vos méthodes sont plus rudimentaires, vous êtes moins organisés, vos réseaux sont archaïques. Mais c'est la même agressivité qui ne cherche qu'à annuler, qui ne veut rien entendre. La voix la plus forte, celle qui fera taire toutes les autres. Vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi ce texte circulait autant, ni pourquoi il était autant commenté. Vous avez pris ce train en marche, puisqu'il passait, et vous vous êtes acharné. C'était mon quart d'heure, ma fête qui commençait. Brusquement, sans aucune justification valable, Zoé devient un punching ball, un maillon faible, une silhouette sur laquelle on s'exerce à tirer. Autrement dit, un bouc émissaire au sens girardien du terme, à savoir un individu tenu pour responsable d'une faute dont il est totalement ou partiellement innocent, permettant à ses persécuteurs en puissance de s'émanciper du tropisme de la violence qui le corrode. Même si Zoé est très affectée au point de se dire détruite par ce nouveau déchaînement de violence, principalement parce qu'il est en partie dirigé par des femmes qu'elle pensait être de son camp, certaines même des amies, des proches ou des filles qu'elle croisait en manifestation, elle continue de trouver refuge dans la parole car, elle en est persuadée, le silence n'a jamais sauvé personne. Résolument, elle brave ses ennemis en citant le réalisateur Maurice Pialat, qui, en 1987, a courageusement affronté un concert de huées et de sifflements en recevant la Palme d'Or des mains de Catherine Deneuve pour son film « Sous le soleil de Satan ». « Vous ne m'aimez pas? Je ne vous aime pas non plus! » À la fin de la cérémonie, le producteur du film, Daniel Toscan Duplantier, déclare à propos de cette polémique « Les sifflets, c'est le propre des œuvres importantes. » C'est bien une œuvre conséquente que Zoé s'engage à réaliser. Créer de l'espace pour les femmes. Si la société patriarcale les exclut, si, lorsqu'elles insistent malgré tout pour se faire entendre, elle les maltraite, Zoé contre-attaque en imaginant un espace différent, absolument autre. Je vais chercher le coin dans la maison du féminisme où l'on désire apprendre à écouter, jusqu'à ce que la parole de l'autre renverse et fissure et bouscule les superstitions. Et je vais supporter la présence des autres, dans tous leurs états. Ne pas chercher comment utiliser leur vulnérabilité pour servir mon plan de carrière. Voir si je peux soigner, et si c'est impossible, me sentir inutile et le supporter aussi. Je vais l'aimer, mon prochain, dans les grandes largeurs, et je vais lui manger la bouche quoi qu'il en coûte, cet enculé. Ça, ce sera mon féminisme. Zoé réalise un rêve qu'elle nomme « mon féminisme » et qui, parce qu'il prend la forme d'un espace qui s'oppose pour devenir protecteur et rassurant, répond de la définition des utopies de Foucault. Un pays où les blessures guérissent avec un baume merveilleux le temps d'un éclair. Un pays où on peut tomber d'une montagne et se relever vivant. Un pays où on est visible quand on veut, invisible quand on le désire. Un pays de paix et de liberté, un contre-espace. Conclusion. S'en sortir, survivre, pour reprendre les mots de Rebecca et d'Oscar, tel est l'objectif commun des trois personnages. Grâce à la confession, dans leurs échanges, mais aussi lors des réunions narcotiques anonymes, Rebecca et Oscar vont, jour après jour, confronter leur « je » dans toute sa complexité avec celui de l'autre pour se le réapproprier et se reconstruire. L'autre joue ainsi le rôle du miroir, au sens où l'entend Foucault, un outil qui, en offrant une conscience globale, ancre dans la réalité du quotidien. Et, plus qu'une existence, C'est une identification que permet l'échange dans Cher Connor. C'est, bien sûr, le rappel des souvenirs partagés. Et sur l'échange d'une expérience commune, leur désintoxication, que se bâtit leur amitié. Oscar dit d'ailleurs de l'identification que « c'est élégant, c'est comme se voir dans un miroir et se reconnaître et se faire coucou en passant. » De son côté, Zoé, en créant, par le biais de ses publications quotidiennes, un espace-refuge pour des femmes qui, comme elle, cherche à se protéger du masculinisme et du féminisme libéral, et dans lequel elles seront libres de mouvement et de parole, libres d'écouter, de soigner et d'aimer, offre un espace solidaire propice à la reconstruction, à l'image des Narcotiques anonymes. Si l'amitié comme vertu est au centre de l'œuvre de Dépente depuis « Baise-moi » 1994, avec Cher Connor, elle innove en faisant de la parole quotidienne l'enjeu même de l'amitié et de la survie. Dépente dépoussière ainsi le genre épistolaire pour lui offrir une dimension singulièrement contemporaine, tant par les thèmes abordés, les rapports hommes-femmes à l'ère MeToo, la dépendance aux drogues, les traumas, les réseaux sociaux et la haine qu'ils véhiculent, etc., que par la langue, à la fois et paradoxalement brutale et douce. Enfin, en offrant une représentation positive de l'espace quotidien au profit de l'individu, au sein de nos sociétés modernes, où les lieux de résistance sont mis à mal et dans lesquels la routine est dévalorisée, en offrant de l'espoir, Dépente continue d'inscrire son écriture dans une démarche subversive nécessaire. C'était La parole, une parenthèse quotidienne au profit de l'individu dans Cher Connor de Virginie Dépente. Un texte de Marie-Lise Auvray, paru le 24 mai 2024 dans Voix plurielle.